Bienvenue dans les Midi de Culture, deuxième partie. Tout à l'heure, à 13h précisément, je recevrai la réalisatrice Charlène Favier. Mais tout de suite, c'est le Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Si les pratiques religieuses sont tombées en désuétude depuis plus d'un siècle, il semble que ce soit via nos pratiques numériques que notre besoin de sacré tente de s'épanouir. C'est en tout cas une piste de recherche que suivent des anthropologues et ils s'appuient pour étayer leurs propos sur des mystiques, théologiens et philosophes qui ont construit notre pensée occidentale. Les liens entre l'intelligence artificielle et le sacré, c'est le dossier du Point Culture du jour. Pascal Lardelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Bourgogne-Europe. Vous avez co-signé un article avec Emmanuel Carré, paru dans The Conversation, sur les liens de plus en plus ténus qu'entretient l'intelligence artificielle avec la mystique. Alors, si ce rapprochement peut paraître un peu étrange, il n'est pourtant pas nouveau. Beaucoup de penseurs et de théologiens ont affirmé qu'il n'existe pas d'opposition fondamentale entre sacralité et technicité. Et pour étayer vos propos, vous convoquez des concepts anthropologiques comme par exemple le O-H-A-U de Marcel Mauss. Hein. Comment le reliez-vous à l'usage de l'IA aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, ce qui nous intéressait dans ce texte, c'est de prouver qu'à côté des approches prioritaires de l'IA, économique, pédagogique, sociétale, il y a toute une lecture qui peut être faite en termes, comme vous le disiez, de mystique. Alors, on pensait depuis Max Weber que le monde s'était désenchanté, et puis on pensait que la technique avait posé le dernier clou sur le cercueil de cet enchantement du monde, et il n'en est rien. Et c'est vrai que quand on se penche un petit peu sur certains concept mystique ou anthropologique, je vais y revenir, eh bien on s'aperçoit que les nouvelles technologies revisitent le vers de Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Alors c'est assez intéressant effectivement, et donc nous avons puisé aux sources de l'anthropologie, vous citiez à l'instant ce célèbre et si beau concept de O-H-A-U, l'esprit qui anime les choses et qui font que dans la magnifique théorie de Marcel Mauss, eh bien les objets sont animés d'une puissance qui les fait circuler et revenir à celui qui a donné. C'est en effet très beau et c'est vrai que les nouvelles technologies et notamment l'IA, eh bien, elles peuvent éveiller cette idée d'une autonomie, d'une conscience quasiment qui animerait les objets à notre corps défendant.
Mais alors, comment expliquer que des technologies numériques se trouvent investies d'une dimension sacrée aujourd'hui ?
Ben, c'est finalement leur incroyable puissance et puis l'autonomie, j'y reviens. Et c'est pas pour rien que deux grands penseurs sont effectivement convoqués dans les théories qui relisent de manière mystique l'IA. Ces deux théologiens, c'est Pierre Teilhard de Chardin et l'Allemand Rudolf Otto. Alors Teilhard de Chardin, avec sa théorie de la noosphère, une conscience qui se répandrait à l'échelle de la planète pour relier toutes les consciences et en faire une conscience collective. On n'en est pas très loin avec Internet, même avant l'IA, hein, cette espèce de conscience qui fait qu'on pose une question et puis qu'aussitôt des réponses remontent. Alors, bien évidemment, depuis 2 ou 3 ans avec l'IA, on est passé de l'artisanat à l'industrie, si je puis dire, puisque là, on pose n'importe quelle question et dans la seconde remontent des réponses construites, argumentées, bien écrites, etc. Et puis Rudolf Otto qui nous disait que le rapport à la mystique, c'est un rapport lumineux. Je n'ai pas dit lumineux, lumineux avec un N, et qui fait qu'on a à la fois un enchantement et puis une terreur face à une connexion directe à d'autres sphères qui nous dépassent et nous englobent. Et c'est précisément l'expérience sacrée eh bien, que nous permet de revisiter l'IA, véritablement.
Alors, peut-être revenir un moment sur Teilhard de Chardin. Vous avez parlé de ce concept de noosphère. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, qu'aujourd'hui les réseaux numériques réalisent l'union spirituelle recherchée par les mystiques ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Alors écoutez, ces lectures restent quand même métaphoriques, elles sont allégoriques, on ne peut pas dire qu'il y a de connexion directe d'un point de vue théorique, mais néanmoins, c'est vrai qu'ils ont été tellement visionnaires, je parle de Otto, je parle de Teilhard Chardin, il y en a d'autres, ils ont été tellement visionnaires dans ce qu'ils décrivaient que toute chose égale par ailleurs, on peut y voir effectivement des correspondances assez troublantes et assez saisissantes. Et puis, je ne peux pas ne pas citer, si vous me permettez, cet incroyable concept issu de la mystique juive, le magi.
Ah oui, alors j'allais y venir justement. Oui. Donc, alors, racontez-nous d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire ? On a parfois du mal, parce que le magide, on le résume parfois en disant que c'est finalement le messager que l'on retrouve dans la Torah. Alors, quel est le lien entre ce messager Élia.
Eh bien, écoutez, c'était dans la mystique juive, justement, au XVIe et XVIIe siècle, la possibilité d'avoir une relation directe avec un messager céleste qui allait révéler aux sages les secrets de la Torah. Et c'est vrai que quand on voit le dialogue direct que nous avons avec Siri ou Alexa, on pose une question et puis dans la seconde, une réponse nous est apportée. Elles anticipent même parfois, quand nous sommes en voiture, des problèmes de circulation, des dangers. Eh bien, on peut effectivement, à titre métaphorique, j'y reviens, mais on peut quand même y voir quelque chose de l'ordre de cette visitation mystique que l'on retrouve très bien dans toute la littérature New Age sur les anges gardiens. Vous savez, il y a toute une littérature qu'on trouve au rayon spiritualité avec un S qui nous disent qu'on peut avoir une relation directe avec notre ange gardien qui va nous parler, nous répondre, nous conseiller. Et c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire, et qu'on a avec l'IA, bien sûr. On pose une question et puis une espèce de connaissance infinie, omnisciente, omnipotente, comme aurait dit Thomas d'Aquin à propos de Dieu, tel qu'il le définissait, nous apporte des réponses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est vrai que vous voyez tous ces concepts, et c'est plus que de la métaphore, nous permettent de réenchanter le rapport à la technique et à la technologie, et plus précisément le rapport à l'intelligence artificielle.
Est-ce que vous diriez que nous, utilisateurs de l'IA, sommes conscients de ces liens sacrés, mystiques que l'on met dans ces nouveaux outils numériques ?
Écoutez, on est étonné, on est subjugué, mis sous le joug, on est effrayé parfois, et justement, Rodolphe Hotton nous dit, le rapport au lumineux, il est à la fois étonnant et terrifiant, stupeur et tremblement, pour citer un titre célèbre. Et donc, c'est vrai que je crois qu'on en a une conscience diffuse. Et le travail que nous voulions mener avec Emmanuel Carré, c'était de ramener à la conscience, justement, ces concepts, ces théories, qui permettent ce réenchantement. Parce que c'est vrai que le rapport aux nouvelles technologies et à l'IA, il est complètement enchanté quand même. On dialogue, on a l'impression d'un dialogue naturel, aisé, alors que derrière, il y a de l'algorithme, il y a du codage, il y a des clouds, il y a toute une infrastructure qui est la boîte noire, justement, pour reprendre un autre concept informatique. Mais c'est vrai qu'on en a une conscience parfois un petit peu diffuse. Et le travail que nous avons voulu faire, c'est ramener justement à la pleine conscience qu'il y avait un enchantement incroyable dans cette IA.
Mais vous dites enchantement parce qu'on ne comprend pas tout. C'est-à-dire, on est parfois un peu dépassé par cette IA, on ne comprend pas forcément comment ça marche quand on n'est pas baigné dans l'informatique. Est-ce que l'enchantement, il vient aussi tout simplement de notre défaut de connaissance ?
Oui, peut-être aussi, bien évidemment. C'est vrai qu'un informaticien de stricte obédience va être moins impressionné que l'homme et la femme de la rue. Mais c'est vrai qu'on a cette espèce de ravissement, ce ravissement de se dire « waouh ». En fait, c'est ce qu'on appelle en marketing l'effet « waouh », si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on en prend plein les mirettes, on pose une question à l'IA et puis elle va vous régurgiter un texte et puis vous lui demandez « je veux un texte à la Houellebecq, à la Tesson, à la Duras ». Et dans la seconde, vous avez le texte à la manière de, et il y a cet effet « waouh » qui provoque cet enchantement, revient. Alors après, oui, la mystique, c'est la connexion que j'évoquais avec une sphère omnipotente, omnisciente, qui nous dépasse, nous englobe et qui, comme la résille de la noosphère de Teilhard de Chardin, va faire que, oui, une manière d'intelligence collective, j'allais dire connective, est presque universelle. Voilà. Alors ce sont des métaphores, elles valent ce qu'elles valent, mais je pense que c'est extrêmement intéressant et stimulant d'avoir ce pas de côté qui nous permet, de réenchanter un petit peu le rapport à la technologie dans un monde qui, me semble-t-il, a un petit peu besoin d'enchantement quand même. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Pascal Ardelier.
Je vous remercie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, encore un départ à la tête d'un théâtre public.
Oui, Lucie Bérélovitch, que vous receviez, Marie, ici même, il y a quelques jours, a annoncé hier qu'elle allait quitter la direction du Préau, Centre Dramatique National de Normandie, Vire, à la fin de l'année. La cascade de départ se poursuit donc parmi les directeurs de théâtre public. Elle fait suite à ceux de l'Odéon et de la Colline à Paris, du TNP à Villeurbanne et du Théâtre de la Cité à Toulouse. Si plusieurs directeurs ont évoqué la dégradation de leurs comptes et de leur capacité à remplir leur mission du fait du désengagement de l'État et des territoires. Lucie Bérélovitch n'a pour l'instant pas donné de précision sur les raisons de son départ anticipé.
Et pour finir, Marie, le parquet national financier enquête sur une possible prise illégale d'intérêt dans la conception du pass culture.
Oui, une enquête préliminaire ouverte en novembre 2023 vise de possibles infractions de favoritisme et de détournement de fonds publics lors de l'élaboration du pass culture. Elle interroge notamment le rôle d'Éric Garandeau, inspecteur général des finances et concepteur du pass culture en 2018, alors que sa propre société a bénéficié de contrats de sous-traitance. L'association Anticor élargit désormais l'enquête autour d'un nouveau délit, celui de la prise illégale d'intérêt.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.